Auditrice, auditeur de Radio Arc-en-Ciel, bonjour. Vous sentez dans ma voix la joie de vous retrouver, la joie de retrouver toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel avec moi et Didier à la technique pour cette petite heure de conseil et d'émaillage. Conseil et d'émaillage, c'est le droit pour tous. Et c'est une émission qui a été mise en place par Radio Arc-en-Ciel pour venir en aide aux personnes en difficulté et nécessiteuses et pour vous apporter point à point au plus proche des dates, quoi. Je vais vous donner d'ailleurs des informations qui sont très très récentes sur vos droits. Et donc nous avons une adresse email conseil@radioarc-en-ciel.re et un numéro de fixe 02 62 41 66 16. Nous avons un numéro de portable que je vous donnerai à la fin puisque vous avez la possibilité de m'envoyer des textos ou de me téléphoner. Il y en a une qui m'a téléphoné, elle n'a pas pu m'avoir, je lui ai envoyé un message pour lui demander. Elle m'a dit qu'elle est chez le médecin, elle me rappelle. Je dis non, pas avant 11h puisque je suis en émission, je ne peux pas, je suis en direct. Voilà l'adresse postale 18 bis rue Montreuil, 97-400 Saint-Denis. Alors je fais un gros coucou, un grand salut, un grand cœur avec la main avec pour tous les auditeurs, nos fidèles, ceux qui sont récemment fidèles hein, ou ceux qui nous découvrent, eh bien, je fais un grand coucou à eux et je leur demande de nous rester fidèles, ou du moins je souhaite qu'ils nous restent fidèles pour cette émission Conseil et d'émaillage qui vous apporte des informations, je pense, que vous appréciez. Voilà, pour ce qui est de notre émission de Conseil et d'émaillage, dans un instant, je vais vous annoncer toutes les affaires qu'on va aborder, tous les sujets qu'on va aborder et sur lesquels, si vous avez de quoi noter, par exemple, eh bien, il faut le garder près de vous puisque je donne des informations, notamment pour les impôts, pour les aides, etc. D'accord ? Alors, voilà pour ce qui est de l'annonce de notre émission Conseil d'émaillage. Je reviens vers vous dans quelques secondes pour vous annoncer ces sujets-là. Alors, comme promis jeudi dernier, je vais vous parler des ETI, des entreprises entre 250 et 4999 salariés, ou bien avec un chiffre d'affaires de moins 1,5 milliard d'euros. Eh bien, les aides pour faire face à la hausse du prix d'énergie. Qu'est-ce que je suis en train de vous raconter des entreprises de 4999 salariés avec des milliards d'euros? C'est-à-dire, c'est dans cette tranche de chiffre d'affaires ou alors du nombre d'employés que ils sont considérés comme ETI, hein, entreprises entre 250 et 499 salariés. Eh bien, comme nous, tous les auditeurs, nous avions des informations, je vous ai donné des informations concernant les aides pour l'énergie, la hausse du prix d'énergie, et pour faire face à la hausse du prix d'énergie, eh bien, cette fois-ci, c'est pour les entreprises, et jeudi dernier, je n'ai pas eu le temps. Alors, je mets ce point-là en premier. Nous allons parler d'aider un proche dépendant. Tout savoir sur l'habilitation familiale. Attention, je vais parler après. J'ai mis un peu plus loin l'aidant familial, qu'est-ce que c'est, etc., combien il touche, etc. Mais là, j'ai pas mis dans la filet, juste après, l'un après l'autre, pour ne pas mélanger. Là, nous allons parler aider un proche dépendant. Tout savoir sur l'habilitation familiale. Ça n'a rien à voir avec le proche aidant. D'accord? Nous allons parler de la campagne de déclaration en ligne des revenus 2023 et officiellement lancée depuis le 11 avril. Je vous l'avais déjà annoncé, mais je vous fais un petit rappel. Parce que on m'a reposé la question, en fait, c'est quand terminer notre déclaration hein, pour la réunion. Oh là là, tout d'un coup, paf, je dis ah oui, c'est vrai, il faut que je le rappelle. Déclaration de revenus, bien sûr, les principales erreurs à éviter. Hein, faut faire attention. Il y en a qui disent ouais ben le papier d'impôt il arrive toutes les remplis, il a pas besoin. Si il y a des erreurs, il pourrait y avoir des erreurs que vous avez fait ou alors qu'il peut y avoir des informations erronées. Donc, vous êtes obligé de le vérifier. D'accord? Pension d'invalidité et retraite. Comment ça marche? Le montant des aides financières au titre des CDD tremplin est connu. Donc, quand vous allez, je vais vous donner des informations, vous allez me dire les aides financières en CDD. Bien sûr, ça concerne les employeurs, mais ça vous concerne aussi. Parce que si vous avez envie de postuler que ben, pour l'instant, trouver un emploi, ce n'est pas évident, eh bien, vous pouvez l'évoquer dans votre, si vous êtes concerné, bien sûr, dans votre lettre de motivation. D'accord? D'ailleurs, votre lettre de motivation, il m'arrive de faire souvent pour des auditeurs. Si vous avez besoin, vous envoyez un mail conseil@radioarc-en-ciel.re, vous m'envoyez votre CV, je vous fais une lettre de motivation adaptée au poste que vous allez, pour lequel vous allez postuler. Mais vous avez tous les services qui vous sont dédiés, vous le savez. Et conseil d'émaillage n'est pas là pour le remplacer. Hein. Conseil d'émaillage est là pour, je veux dire, pour compléter. D'accord ? Nous allons parler de l'aidant familial, le proche aidant. Quelle définition et quelles aides que vous avez en étant aidant familial et proche aidant ? Ça n'a rien à voir avec l'habilitation familiale que j'ai parlé tout à l'heure. Hein. Je vais bien vous expliquer. Et nous allons parler de la réforme de la fonction publique. Vous avez entendu, ça fait grand bruit. On est en train d'aller vers la réforme. Enfin, il y a un projet, un avant-projet de loi qui a été annoncé hein, par le ministre. Et donc, ça fait beaucoup de bruit. Je vais vous donner quelques petites explications là-dessus. Mais... je ne vais pas quand même vous donner un droit de droit public, hein, même si je suis un petit peu assez férue ou assez vraiment expérimentée en la matière, mais je vais, sans trop faire de fioritude, hein, mais je veux dire, je ne vais pas vous faire un cours de droit de la fonction publique, mais je vais vous dire de quoi il se passe, puisqu'il y en a beaucoup qui disent « ouais, ça y est, on va licencier les gens dans la fonction publique, etc. » Non. Il y aura vraiment, dans une gazette de la commune que je cite, puisque c'est une commune, département, région, c'est un journal que je lis assez souvent, hein, une revue que je lis assez souvent, eh bien, il s'interroge même sur la fin de la catégorie A, B, C. Alors, donc, dans cette réforme de la fonction publique, vous savez bien, dans la fonction publique, il y a des catégories. Le A, c'est la direction. Le B, je vous l'ai déjà dit, c'est l'encadrement. Et le C, c'est les exécutions. Bon, alors, donc, je vais vous dire un petit peu ça, mais sans trop rentrer dans les détails. Hein. Et puis, le licenciement des fonctionnaires pour insuffisance professionnelle, normalement, à l'heure actuelle, c'est d'actualité, puisque si le maire veut licencier son employé, il a tout à fait la possibilité de le faire. Il y a des commissions, bien sûr, les conseils de discipline. Et donc, voilà, bref. Mais je veux dire, peut-être que c'est pour licencier plus facilement. D'ailleurs, les contractuels, c'est facile aujourd'hui dans la fonction publique de licencier s'il y a besoin, hein, parce que les contrats le prévoient. Donc, bon. Voilà, donc je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais je mettrai ça à la fin. D'accord ? Voilà pour ce qui est des sujets que nous allons aborder aujourd'hui.
C'est là que tu vois ton vrai ami, dis-moi. Parce que les amis, moi, l'avais un gros paquet. Mais il était trop gros, la corde l'a cassé. Et il dit, cause avec moi. Et il fallait voir comment ce temps était blanc. Mais tout ça l'a pas déjà moi. Et il m'a mon derrière. Pareil pour blanc. Quand on est dans le besoin banal. Mais c'est là que tu vois ton vrai ami. Tiens-moi, s'il est bon. Parce que les amis, moi la vie est gros au paquet. Mais elle était trop gros. La corde l'a cassé. T'es irrité, cause sans moi.
La corde l'a cassée. Moi, elle est la même. Alors, on va parler des aides pour faire face à la hausse des prix de l'énergie pour les ETI, les grandes entreprises. En 2024, qu'est-ce qui change alors en 2024? En 2024, le guichet d'aide au paiement des factures d'électricité et ou de gaz cible les consommateurs professionnels qui relèvent de la catégorie des entreprises de taille intermédiaire, les ETI. Je ne vais pas répéter encore cette histoire de 250 employés, etc. Hein. Alors, c'est un décret hein, qui a été publié le 22 mars 2024. Eh bien, qui précise les conditions d'éligibilité. En fait, il a été publié après, mais je veux dire, c'est un décret 2024-251 du 22 mars 2024 qui précise les conditions d'éligibilité à cette aide spécifique ainsi que les périodes d'éligibles. Donc, vous pouvez y aller dans ce décret d'une manière générale, c'est très explicite, mais bon, si ça ne vous parle pas, eh bien, conseil@radioarc-en-ciel.re. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que créé en 2022, le guichet de l'aide au paiement des factures d'électricité et de gaz est prolongé en 2024 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024. C'est ce décret qui a prolongé cette possibilité d'avoir de l'aide de paiement des factures d'électricité et de gaz. En 2024, le guichet d'aide au paiement des factures d'électricité ou de gaz cible les consommateurs professionnels qui relèvent de la catégorie des entreprises de taille intermédiaire. Alors, quels sont les critères pour pouvoir en bénéficier? Ben, pour pouvoir bénéficier d'aide au paiement des factures d'électricité ou de gaz en 2023, pour bénéficier de cette subvention au titre de 2023 qui a été prolongée en 2024, bien sûr, hein, il fallait, le prix de l'énergie pendant la période de la demande d'aide doit augmenter de 50% par rapport au prix moyen payé en 2021. Alors, pour bénéficier en 2024, votre entreprise doit remplir différents critères. Être domicilié fiscalement en France, ne pas se trouver en procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à la date de versement de l'aide. Être créé au plus tard le 30 juin 2023. Disposer d'au moins un contrat de fourniture d'électricité en vigueur en 2024, signé ou renouvelé avant le 30 juin 2023. Être énergo-intensive, c'est-à-dire avoir des dépenses d'énergie en 2024 représentant plus de 3% du chiffre d'affaires de l'une des périodes de référence définies à l'article 2 du décret du 22 mars 2024. D'accord ? Il faut justifier d'un excédent brut d'exploitation négatif ou en diminution par rapport à cette période de référence. C'est compliqué peut-être hein, pour vous, en tout cas pour ceux qui n'ont pas d'entreprise, ils sont presque obligés d'écouter, mais bon, ça enrichit toujours les connaissances des gens, quoi. Voilà, donc même si ça ne les concerne pas, ils sont au courant. Alors, pour 2024, en 2024, l'État prendra en charge 50% de la facture d'électricité au-delà de 300 euros le mégawatt, dans la limite du plafond d'aide de 2,250 millions d'euros au niveau du groupe et des autres plafonds d'aide s'appliquant au guichet. Quelles sont les pièces à fournir alors? Il faut vos factures d'électricité, vos factures d'énergie pour la période concernée et vos factures, les coordonnées bancaires de votre entreprise, votre RIB, ça vous le savez, le fichier du calcul de l'aide mis à disposition sur le site des impôts et une déclaration sur le NEU attestant que votre entreprise remplit les conditions et l'exactitude des informations déclarées. D'accord? Donc voilà, si vous avez des informations sur les dispositifs d'accompagnement d'aide aux entreprises, le cautionnement des contrats de fourniture d'énergie, quels sont les critères d'éligibilité justement pour le cautionnement, eh bien, comment pouvez-vous l'obtenir? Donc, conseil@radioarc-en-ciel.re. Ça, il s'agit d'un petit détail que je devais donner jeudi passé pour les entreprises. Maintenant, nous allons parler d'un proche aidant, aider un proche dépendant. Attention, hein, tout à l'heure, je vais parler des proches aidants. Hein. Là, pour l'instant, nous allons parler de l'aide à un proche dépendant. Parce que jeudi dernier, il y a quelqu'un qui avait demandé, qui avait posé une question concernant le proche aidant. Donc, j'ai mis ça à notre ordre du jour d'aujourd'hui, mais je le parlerai un peu après, pour ne pas mélanger. Là, à l'instant, je parle aider un proche dépendant. Tout savoir sur l'habilitation familiale. Eh bien, alternative à la tutelle et à la curatelle. Au lieu d'aller faire appel à la tutelle ou la curatelle, l'habilitation familiale permet de représenter une personne en situation d'incapacité ou de passer des actes à sa place. Quelqu'un qui n'aime pas faire quelque chose, est handicapé, enfin handicapé, entre guillemets, hein, parce qu'il y en a des gens qui disent « moi, je n'ai pas handicapé ». Je dis toujours, hein, je rassure toujours les gens, quand on parle de handicapé, ça ne veut pas dire qu'il est grabataire, qu'il ne marche pas. Hein. Donc, pour représenter une personne en situation d'incapacité et de passer des actes à sa place. Alors, avec l'âge ou la maladie, Un proche peut perdre la capacité de s'occuper de lui-même et de ses biens. Il faut passer les actes de la vie courante et prendre des décisions plus engageantes. Le mécanisme de la procuration ne suffit pas toujours. Parce que souvent, quand la personne ne peut pas, par exemple, aller gabier, dit créole, hein, dit gabier au distributeur, eh bien, il donne une procuration. Il convient alors de mettre en place une habilitation familiale, sinon pas la possibilité de faire tout ce qu'il faut faire. D'accord ? Au lieu de passer une procuration, eh bien, il met en place une habilitation familiale. C'est un dispositif alternatif aux mesures de protection judiciaire. Ce dispositif existe dans le droit français depuis 2015, mais assez méconnu des familles. Il est encore peu utilisé. Les familles ne savent pas qu'ils ont la possibilité de le faire. Pourtant, il évite la mise en place de mesures de protection judiciaire de la personne que sont la sauvegarde de justice, la curatelle ou la tutelle, qui est très lourd. Les démarches sont très lourdes à entreprendre, à faire, puisqu'il faut aller consulter un médecin spécialisé, il faut aller devant le juge des tutelles, etc., etc., pour la curatelle et la tutelle. Tandis que là, c'est plus simple. Ces mesures sont nécessaires quand un proche adulte perd sa capacité mentale et ou physique pour s'occuper de lui-même, ou qu'il est hors d'état de manifester sa volonté du fait grand âge, d'un accident ou d'une maladie invalidante. Eh bien, ce réflexe à mettre en place par les couples ou les familles consiste à désigner une personne du cercle proche pour représenter la personne incapable. Juridiquement, il s'agit d'un mandat familial délivré par le juge à un proche, permettant à celui-ci de représenter la personne, de passer certains actes en son nom ou de l'assister pour les actes énumérés dans le jugement d'habilitation. D'accord ? Voilà pour ce qui est de l'alternative à la curatelle, c'est l'habilitation familiale qui permet de représenter une personne en situation d'incapacité et de passer des actes à sa place. Ça, c'est pour parler d'aider un proche dépendant. Hein, ça n'a rien à voir avec… voilà. Alors, comment effectuer la demande ? Quels sont les pouvoirs de la personne habilitée ? Qu'est-ce que c'est les actes les plus engageants pour le patrimoine ? Tout ça, si vous avez besoin, conseil@radioarc-en-ciel.re. Nous allons parler de la campagne, le lancement de la campagne de déclaration des revenus 2023. Ça, c'est juste un petit rappel. Le calendrier de la déclaration. Le service de déclaration en ligne sur impots.gouv.fr est ouvert depuis le 11 avril 2024. Souvenez-vous, jeudi passé, au jour le jour, je vous ai donné l'information. Alors, pour les usagers ne pouvant pas déclarer en ligne, les déclarations papier sont envoyées selon les conditions d'acheminement entre le 29 mars et le 26 avril 2024. Ils devront déposer leur déclaration papier au plus tard le mardi 21 mai à 23h59. Pour rappel, cette modalité est réservée uniquement aux usagers s'estimant dans l'incapacité de déclarer en ligne. Le calendrier représentant les dates limites de dépôt de la déclaration des revenus 2003 en ligne est rappelé. Les dates limites dépendent du département de résidence du contribuable. Je le rappelle, parce que moi-même, je l'avais annoncé jeudi passé, et puis tout d'un coup, je me dis, ah oui, c'est vrai, pour nous, à La Réunion, c'est quelle date, la date butoir, la dernière date? Alors, parce que ça dépend, c'est en ligne et sur papier, c'est pas la même chose. Alors, si vous faites votre déclaration en ligne, la zone 1, département 01 à 19, ainsi que les non-résidents, la date limite, c'est le jeudi 23 mai 2024 à 23h59. Si vous êtes en zone 2, département 20 à 49, jeudi 30 mai 2024 à 23h59. Et en zone 3, là on est dedans, département 50 à 97.4, 97.6, ça sera le jeudi 6 juin 2024 à 23h59. D'accord ? Alors nous, notre date limite pour la déclaration en ligne, c'est le 6 juin 2024 à 23h59, n'oubliez pas. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le calendrier des avis d'imposition, dans le cas général, les contribuables pourront prendre connaissance de leur avis d'imposition, l'avis d'impôt sur le revenu, dans leur espace particulier sur impots.gouv.fr entre le 24 juillet et le 2 août 2024. Si vous avez envie de savoir combien vous allez payer, vous allez pouvoir le voir sur impots.gouv.fr entre le 24 juillet et le 2 août 2024. Les dates de réception varient notamment selon que l'usager est opté ou non pour ne plus recevoir d'avis d'imposition format papier. Par exemple, s'il a mis, il ne veut plus recevoir des d'avis d'imposition en papier, eh ben il va le recevoir sur Internet. D'accord ? Et il y a des situations différentes hein, selon ce qu'ils ont fait. Si le contribuable bénéficie d'un remboursement ou bien le contribuable n'a aucun montant à payer, ben, entre le 24 juillet et le 2 août 2024, l'avis sera disponible. Et puis, ben, pour ceux que le choix de recevoir un avis papier et qu'ils bénéficient d'un remboursement ou bien il n'a aucun montant à payer sur le 24 juillet, entre le 24 juillet et le 29 août 2024. Et si le contribuable a un montant à payer, ça sera entre le 26 juillet et le 2 août 2024 sur l'espace. Et sur le papier chez vous, vous l'aurez le 25 juillet, entre le 25 juillet et le 23 août 2024. Là, si vous avez un montant à payer. Voilà, vaut mieux ne pas avoir, comme ça vous allez avoir avant le 26 juillet, comme ça vous êtes sûr de ne pas payer des impôts. Voilà pour ce qui est le petit rappel en ce qui concerne les impôts sur le revenu.
Depuis toujours, moi, la vie ici, l'été tranquille, si quoi la ville, ne te prends le temps pour respirer, gentil et plus difficile. L'autocamion, la circulation, le bruit moteur, gaz, l'échappement, comment va faire un jour pour arrêter ça? Moi m'y trouve des bagaillards. M'y demande à moi s'il est pas trop tard. Un jour ma remonte là-bas dans la montagne, loin, loin, loin des ors de la ville. Et puis ma respire l'air, dernier bout de la plaine, pur, 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 parfums et verts. Ma trempe mon deux pieds dans bord la rivière, clair, clair, clair de l'eau, bon Dieu.
Bon, ben, pour enchaîner sur la déclaration de revenus, quelles sont les principales erreurs à éviter? Alors, les principales erreurs à éviter, c'est ne pas déclarer correctement une pension alimentaire. Ça, c'est une erreur. Il s'agit d'une source d'erreur possible. Si vous versez une pension alimentaire, cette dernière doit obligatoirement être renseignée dans la rubrique 6, charges déductibles de la déclaration de revenus, et plus précisément dans l'une des rubriques dédiées aux pensions alimentaires versées. 6GI, 6G, 6EL, 6EM, 6GP ou 6GU. Mais elles ne doivent pas être déclarées en rubrique 6DD, déduction. D'accord? Il ne faut pas aller mettre ça dans 6DD, pas déduction. Il faut mettre dans tout ce que je vous ai dit là. Les enfants et les ascendants pour lesquels vous déduisez une pension alimentaire ne doivent pas non plus être indiqués dans les cadres C et D. Personne à charge et rattachement d'enfants majeurs ou mariés. Il ne faut pas mettre là-dedans. Il faut éviter aussi... Si vous percevez une pension alimentaire ou que l'un des membres du foyer fiscal perçoit, y compris un enfant mineur dont vous avez la garde ou un enfant majeur attaché au foyer, cette dernière doit être déclarée dans l'une des rubriques 1AO, 1BO, 1CO ou 1DO. C'est là-dedans que vous devez déduire des frais. Par exemple, quand je vous ai dit qu'un enfant mineur ou majeur que vous aidez, etc., ou bien vous avez la garde, etc. Et donc là, vous déclarez dans cette rubrique-là. Ce que vous devez éviter aussi, c'est faire une erreur sur le montant des frais de garde des jeunes enfants. Il est possible d'obtenir un crédit d'impôt égal à 50% des dépenses engagées pour la garde d'enfants, des enfants à charge âgés de moins de 6 ans au 1er janvier de l'année des revenus. Pour l'imposition des revenus 2023, il s'agit des enfants nés après le 31 décembre 2016. Cependant, il est nécessaire de ne pas inclure les frais de nourriture pour les montants déclarés, car ils ne sont pas concernés par le crédit d'impôt. Retirer de ces frais les aides perçues au titre de la garde des enfants, notamment le complément de libre choix du mode de garde et les aides versées par l'employeur. Il faut retirer ça. Ce qu'il faut savoir, si vous effectuez votre déclaration en ligne, les rubriques qui vous sont proposées sont adaptées à votre situation. Ainsi, les rubriques frais de garde des enfants de moins de 6 ans sont accessibles uniquement si vous avez indiqué un ou plusieurs enfants de moins de 6 ans. Vous voyez l'importance de bien cliquer sur les rubriques quand il faut, hein? Alors, ce qu'il faut éviter aussi, ne pas déclarer correctement les dons aux associations. J'ai une dame que j'avais renseigné, je le dis puisque ça date d'hier, c'est pas de longtemps, ou avant-hier, je crois. Eh bien, je lui dis qu'il y a, lorsque vous faites des dons aux associations, eh bien, c'est déductible des impôts. Elle m'a dit non, cette année, on déduit pas. Ah ben, moi, quand les gens insistent, ils connaissent mieux, mais je laisse. Alors là, je répète, ne pas déclarer correctement les dons aux associations sont aussi un problème. C'est-à-dire ce qu'il faut éviter. Les dons peuvent être indiqués dans les déclarations de revenus. Ils donnent droit à une réduction d'impôts, dont le montant s'avère différent en fonction de la typologie de l'organisme à qui le don a été effectué. Soit 75% du montant du don pour les organismes qui viennent en aide aux personnes en difficulté, fourniture gratuite de repas, soins médicaux, logement de personnes en difficulté, actions concrètes en faveur des victimes de violences et de violences. 75%. Alors, qu'est-ce que ça m'est en train de dire dans les différents, en fonction de la typologie, patati patata. Il veut dire autre comme ça. Quand on déclare, eh ben, il faut que ça va déclarer le don que ou la donnée, il donne à ou un reçu, ou ça va déclarer ce don-là. Et si vous avez des difficultés pour connaître dans quoi vous devez mettre ça, vous pouvez aller consulter la brochure d'impôts pour en savoir plus. C'est écrit « en savoir plus ». Alors, il y a 66% du montant du don pour les associations, les organismes d'intérêt général, les fondations reconnues d'utilité publique. Là, c'est 66%. Lorsque vous renseignez ces dons dans votre déclaration, il est important de faire cette distinction. D'accord? Il y a déjà une auditrice qui m'avait posé la question un jour. Je m'attendais pas que les gens écoutaient bien les détails quand je donnais les rubriques dans lesquelles aller déclarer. Eh bien, elle m'a envoyé un texto sur le téléphone portable pour me dire « Annick, vous avez dit dentelle, c'est sûr ?» Alors, je redis. Bon, ça m'a mis un doute, mais non. Effectivement, c'était bon ce que j'avais donné comme information. Mais ça m'a fait tellement plaisir que elle est retenue hein, ce que j'ai dit. Donc, ça m'a fait plaisir, quoi. Je dis donc, les élèves suivent. Les auditeurs, non, je ne vous considère pas comme des élèves, au contraire, vous êtes ma famille, voilà, la famille de Conseil des Maillards, le train, vous êtes dans le train. Alors, lorsque vous renseignez ces dons dans votre déclaration, il est important de faire cette distinction. Les dons versés à des associations qui les utilisent pour venir en aide aux personnes en difficulté doivent être déclarés à la ligne Z7UD de la déclaration, hein? Et 7 VA pour les dons versés au-delà de 1 000 euros. Si vous versez moins de 1 000 euros, eh bien, vous déclarez dans la ligne 7 UD. Et si vous donnez plus de 1 000 euros, ben, c'est bien ça, hein, il y a de l'échant là. Eh bien, c'est dans la zone 7 VA. Alors que les dons versés à des associations, des organismes d'intérêt général, des fondations reconnues d'utilité publique doivent être déclarés en ligne ZUF de la déclaration. Ça, je répète pour une dame là qui s'occupe d'une association d'ailleurs, eh bien qui m'avait dit que ça n'existe plus. Si, elle me dit, la ligne a été effacée. Non, on n'a pas été effacée, toujours là. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, vous ne savez pas à quelle catégorie appartient une association à laquelle vous avez fait don, ni à quelle ligne vous devez mettre. Bien sûr, vous pouvez, pour connaître la ligne, vous pouvez appeler Conseil des Maillages. Mais si vous voulez connaître dans quelle rubrique se situe cette association, si elles sont des associations d'intérêt général ou quoi, ou des fondations ou communautés publiques, eh bien, vous avez déclaré ce don, eh bien, la personne à qui, l'organisme, l'association à qui vous avez donné, vous délivre un document, hein, eh bien, ces reçus fiscaux qui ont été émis par ces organismes pour lesquels vous avez fait un don, un ou plusieurs dons, mentionne à quelle réduction d'impôt vous pouvez prétendre. Donc, quand vous faites le don, il vous donne un reçu, et bien c'est sur ce reçu qui est écrit où vous devez le déclarer. D'accord? Et si vous avez des doutes ou des besoins, soit vous allez sur votre site impots.gouv.fr, soit vous allez dans vos services dédiés et services publics, en dernier ressort, conseil@radioarc-en-ciel.re. Ou alors, le numéro de portable que je vous donnerai à la fin, c'est fait pour ça, vous m'envoyez un texto ou alors vous me téléphonez. Si je vous ne réponds pas, eh bien, ça veut dire que mon téléphone n'est pas avec moi et donc vous m'envoyez un texto et je vous rappelle. Alors, si vous ne déclarez pas aussi correctement les enfants à charge en cas de séparation ou de divorce, l'enfant de parents divorcés ou séparés est considéré comme étant à la charge du parent chez lequel il réside habituellement. Alors, donc, il ne faut pas oublier, pour éviter de faire une erreur sur ce point, vous devez indiquer, si votre enfant est à votre charge exclusive, eh bien, vous renseignez la case F ou G de la déclaration de revenus, ou bien en résidence alternée. Dans ce cas-là, vous devez renseigner dans la case H ou I de la déclaration de revenus. Eh bien, il faut savoir aussi qu'un même enfant ne peut pas être déclaré simultanément par ses deux parents comme étant à leur charge exclusive. Alors, il ne faut pas oublier cacher la case T, parents isolés. C'est important, hein? Si vous êtes célibataire, divorcé ou séparé, et que vous élevez ou entretenez seul votre enfant ou vos enfants à charge ou rattachés, vous pouvez bénéficier d'une majoration du nombre de parts du quotient familial. C'est important. La perception d'une pension alimentaire pour l'entretien du ou des enfants ne fait pas obstacle à ce que le parent soit considéré comme supportant la charge de celui-ci ou de ceux-ci. D'accord ? Deux ou des enfants. Pour bénéficier de cette majoration, vous devez d'abord cocher la case « parent isolé T » de votre déclaration de revenus. Notez que cette case n'est pas pré-cochée d'une année sur l'autre. Vous devez donc la cocher chaque année tant que vous remplissez les conditions. Alors, ne signalez pas de changement d'adresse. À l'occasion de la déclaration de vos revenus, n'oubliez pas d'indiquer tout changement d'adresse. C'est-à-dire, ne pas oublier les erreurs que vous devez éviter. C'est pour ça que je mets ne pas signaler. Ça, c'est une erreur. Il faut, à l'occasion de la déclaration de vos revenus, n'oubliez pas d'indiquer tout changement d'adresse. À compter de la déclaration de revenus 2023, l'adresse, numéro ou je ne sais pas quoi, des enfants ou des enfants mariés ou rattachés, eh bien, vous devez la déclarer si vous avez changé. Si vous n'avez pas changé d'adresse, c'est bon. Par ailleurs, si vous êtes propriétaire, vous devez remplir la déclaration d'occupation de vos biens immobiliers. Si vous l'avez faite en 2023, si la situation d'occupation de vos biens a changé depuis votre dernière déclaration, eh bien, pour chacun de ces locaux, le propriétaire doit indiquer à quel titre il l'occupe. Principal, secondaire, etc. Hein? Et quand il ne l'occupe pas lui-même, l'identité des occupants et la période d'occupation des locaux annexes, etc. Alors, déclaration de revenus, quelles sont les autres erreurs fréquentes? Eh bien, les quelques exemples sont à voir sur le site de impots.gouv.fr ou alors, si vous avez des doutes, conseils, @radioarc-en-ciel.re ou sur mon texto que je vous donnerai le numéro de téléphone à la fin. D'invalidité. Les conditions à bénéficier, je vous l'ai déjà développé jeudi dernier, mais je le rappelle succinctement. Succinctement, il veut dire un petit bout. Vous pouvez toucher une pension d'invalidité si une maladie ou un accident d'origine non professionnelle réduit fortement votre capacité de travail. Hein? Les montants ont été revalorisés de 4,6% le 1er avril dernier. Qui a le droit à la pension d'invalidité? La pension d'invalidité pour pallier à un handicap selon le taux d'invalidité. Il ne faut pas confondre avec la H. Hein. Certaines situations peuvent vous mettre en incapacité totale ou partielle de travailler. C'est le cas d'un accident, par exemple de la route, d'une chute hein, ou de certaines maladies, par exemple Parkinson, AVC, insuffisance cardiaque grave, etc. Généralement, vous êtes d'abord mis en arrêt de travail et percevez des indemnités journalières. De la sécurité sociale si vous êtes salarié ou indépendant de la mutualité sociale agricole si vous êtes agriculteur. Donc, vous avez la possibilité de prendre une pension d'invalidité qui peut prendre le relais de certaines dans certaines conditions. Eh bien, si vous voulez réécouter l'émission de jeudi dernier, je l'avais développée. Sinon, vous allez poser la question conseil@radioarc-en-ciel.re ou un petit texto. Je n'hésiterai pas à vous donner des explications, parce que nous avons des pensions d'invalidité en catégorie 1, 2, 3. Hein, et si vous pouvez si vous percevez seulement une pension d'invalidité, eh bien, si vous êtes en catégorie 2 ou 3, vous ne pouvez percevoir de salaire. Hein. Vous percevez uniquement la pension d'invalidité. Voilà, donc, enfin bref, si vous avez besoin que je revienne sur le sujet, vous m'envoyez un texto ou un mail, je redévelopperai le sujet. Ou alors, vous pouvez aussi aller écouter en podcast les émissions de jeudi dernier. Alors, nous allons parler, je vais interrompre avec l'autre sujet d'aidant familial, comme ça, ça va couper les deux. Hein. Nous allons parler là, pour l'instant, le montant des aides financières au titre des CDD tremplins. Suite à la publication d'un arrêté au journal officiel du 6 avril 2024, vous voyez bien que je suis tous les textes pour vous, hein, le montant des aides attribuées aux entreprises adaptées ou bien aux entreprises adaptées de travail temporaire, les EA ou les EATT, pour le recours au CDD tremplin est fixé. Eh bien, c'est les entreprises adaptées, en application des dispositions des articles du Code du travail, hein, je ne vais pas vous donner tous les articles, en cas de recours à des CDD tremplins, ou bien les entreprises adaptées ouvrent droit au bénéfice d'une aide financière contribue à compenser les conséquences du handicap et l'accompagnement spécifique des travailleurs handicapés. Cette aide financière connaît un montant socle et un montant modulé. Le montant annuel aide socle, il veut dire la base, hein, l'arrêté du 18 mars 2024, qui a été publié le 6 avril 2024, et plus précisément son article 1, fixe les valeurs suivantes. 12 212 euros avec une valeur à Mayotte qui n'est pas la même que la nôtre, 9 219. Donc, l'aide est à 12 212 euros. À noter que le montant de l'aide socle est réduit à due proportion du temps de travail effectif ou assimilé. Les entreprises adaptées du travail temporaire, les EATT, en application des dispositions du Code du travail, en cas de recours à des CDD tremplin, les entreprises adaptées de travail temporaire ouvrent droit au bénéfice d'une aide financière qui contribue à compenser le coût de leur accompagnement renforcé, notamment le temps que consacrent à cet accompagnement les personnes qui en sont chargées, ainsi que leur formation à cette activité. Cette aide financière connaît un montant socle et un montant modulé. Alors, le montant annuel aide socle pour cette entreprise adaptée de travail temporaire, eh bien, l'arrêté du 18 mars 2024 qui a été publié le 6 avril 2024, et plus précisément son article 2, fixe les valeurs suivantes, 5 191 euros, avec une valeur à Mayotte de 3 918 euros, qui n'est pas la même que chez nous. À noter que le montant de l'aide socle est réduit à due proportion, pareil, du temps de travail effectif ou assimilé. Alors, la gestion par les ASP. L'article 3 de cet arrêté du 18 mars 2024, ASP c'est quoi ? C'est Agence de Services de Paiement, qui verse pour le compte de l'État les aides précitées dans les conditions ainsi fixées. Les aides sont versées mensuellement et sont calculées au vu du nombre de travailleurs handicapés éligibles à l'aide ayant exercé en cours du mois en équivalent temps plein travaillé. Ce versement mensuel est limité à 1/12 de l'avenant financier annuel connu. En cas de sous-consommation sur un mois donné, les crédits correspondants sont reportés sur le ou les mois suivants. En outre, en plus, des régularisations peuvent être réalisées lors du mois de mai, septembre et décembre de l'année en cours et lors du mois de janvier de l'année suivante afin d'ajuster le montant des aides versées en fonction des embauches réalisées depuis le 1er janvier de la période considérée. Alors, l'entrée en vigueur. Quand est-ce que ça rentre en vigueur ? Eh bien, l'article 4 de l'arrêté du 18 mars nous informe que les dispositions s'appliquent aux avenants financiers conclus sur le fondement des dispositions du décret au titre de l'année 2024 et établies en tenant compte des actions conduites depuis le 1er janvier 2024. Si vous avez besoin des renseignements complémentaires, conseil@radioarc-en-ciel.re ou alors un coup de fil sur mon téléphone portable. Pas mon téléphone portable, c'est le téléphone portable que la Radio Arc-en-Ciel a mis à votre disposition. Seulement, il y a des moments où je ne suis pas avec ce téléphone partout. Donc, vous me laissez un texto si vous ne pouvez pas m'avoir par téléphone. Comme l'a fait une auditrice ou un auditeur, il ne m'a pas laissé un prénom. C'est bien quand même, quand vous m'envoyez un texto, de me laisser un prénom, hein, qui me disait que il ou elle était chez le médecin et qu'elle avait besoin de moi. Bon, enfin, pas pour le médecin, hein, elle avait besoin de moi. Pour, elle a bien précisé, par contre, c'est pour sa retraite. Donc, il faut lui donner des renseignements pour sa retraite. Nous allons passer à l'aidant familial, le proche aidant. Quelle définition et qu'est-ce d'aide ? Alors, qu'est-ce qu'un aidant familial ? Un aidant familial, c'est la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées qui rend officielle la place et le rôle des aidants familiaux. À titre d'exemple, un aidant familial d'une personne en situation de handicap qui apporte une aide humaine à son proche, bénéficiant d'heures d'aide accordée par la PCH, prestation de compensation du handicap, peut percevoir un dédommagement. La loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement définit la notion de proche aidant d'une personne âgée en perte d'autonomie en élargissant à l'entourage, voisins, amis. Justement, la question qui m'a été posée le jeudi dernier, c'était, je crois, que quelqu'un qui aidait son ami ou son voisin. Eh bien, il s'agit aussi du conjoint, je vais vous dire, du conjoint, du partenaire avec qui la personne âgée en perte d'autonomie a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, d'un parent, d'un allié ou d'une personne résidant avec elle en entretenant avec elle des liens étroits et stables comme un voisin ou un ami, qui lui apporte son aide pour une partie de, ou la totalité des actes de la vie quotidienne de manière régulière et fréquente. À titre non professionnel, les proches aidants de personnes âgées en perte d'autonomie correspondant à cette définition ainsi que les aidants familiaux de personnes en situation de handicap peuvent bénéficier d'aides comme l'allocation journalière du proche aidant, d'une aide au répit et de programmes de formation. Ces aides du point de vue des aidants de personnes en perte d'autonomie liées à l'âge, les aidants de personnes en situation de handicap peuvent accéder à des informations les concernant sur un site officiel. Si vous avez de quoi noter, vous pouvez avoir tous les renseignements que je suis en train de vous dire pour voir si vous êtes éligible ou pas sur monparcourshandicap.gouv.fr. Alors, les aides pour les proches aidants. L'allocation journalière du proche aidant. L'allocation journalière du proche aidant est un revenu de remplacement qui s'adresse aux proches aidants d'une personne en situation de handicap ou de perte d'autonomie qui réduit ou bien qui cesse son activité professionnelle pour aider cette personne. Par exemple, elle est en recherche d'emploi, elle ne peut plus travailler parce qu'elle va aider son mari, son conjoint, son voisin, la personne qui est en situation de perte d'autonomie. Eh bien, au 1er janvier 2023, le montant journalier de l'allocation journalière du proche aidant est fixé à 62,44 €. L'allocation journalière, d'accord, par jour, 62,44 € depuis le 1er janvier 2023. Alors, si vous voulez savoir plus que ça, vous allez sur Internet, vous savez bien, sur les moteurs de recherche, on trouve tout. Mais bien sûr, après Conseil des maillages est là pour vous donner des précisions ou bien des confirmations ou bien de vous rassurer si vous n'êtes pas sûr. D'accord ? Il y a l'aide au répit pour ces personnes qui est le proche aidant, l'aidant familial, le proche aidant. Eh bien, il y a l'aide au répit. L'aide au répit permet aux proches aidants de personnes âgées, bénéficiant de l'APA, par exemple, l'allocation personnalisée d'autonomie, de se reposer ou de dégager du temps en finançant des solutions d'aide commune. Un accueil de jour ou de nuit pour les personnes aidées, un hébergement temporaire ou en établissement en accueil familial, un relais à domicile, quelqu'un qui vient prendre la place de la personne pour aider. Par ailleurs, en cas d'hospitalisation du proche aidant, une aide ponctuelle permet de financer l'hébergement temporaire de la personne aidée ou un relais à domicile. D'accord ? Eh bien, vous pouvez aller trouver ces renseignements-là sur Internet. Vous cliquez sur l'aide au répit dans le cadre de l'APA, vous allez avoir des explications. Il y a des aides fiscales. Les aidants peuvent bénéficier d'aides fiscales s'ils hébergent durablement leurs proches âgés chez eux ou bien s'ils participent à ces frais d'hébergement en EHPAD. Par exemple, les personnes qui aident leurs parents en EHPAD, ils peuvent enlever les frais, par exemple, aller voir les parents qui sont en EHPAD depuis très loin, tout ça. Vous pouvez retrouver une rubrique pour mettre ces dépenses dedans. Hein. Alors, sinon, vous allez vous aider un proche âgé. Quelle aide fiscale ? Vous pouvez aller sur Internet. Être rémunéré en tant que proche aidant. Il est possible d'être rémunéré pour l'aide apportée à un proche âgé en perte d'autonomie, en devenant son salarié. Ça, c'est autre chose, hein, un proche aidant. En effet, la loi autorise une personne bénéficiaire de l'APA, allocation personnalisée d'autonomie, à employer un membre de sa famille, à l'exception du conjoint, concubin ou partenaire pacsé. en tant qu'aide à domicile dans le cadre de l'APA qui lui est accordée. L'APA permet ainsi de rémunérer le membre de la famille qu'elle salarie. Ça, vous le savez, il y a des associations pour ça et c'est le conseil départemental qui fait ça pour vous, hein, l'APA, là. Hein. Se former et se préserver. Se former pour mieux accompagner son proche. Il y a des formations pour ça. Avoir du temps libre afin de permettre aux proches aidants de bénéficier de temps de pause. Des solutions existent comme l'hébergement temporaire de l'accueil de jour. Ces solutions sont également bénéfiques à la personne aidée qui bénéficie d'un accompagnement adapté à sa situation. Alors, vous allez pouvoir trouver des soutiens aussi. Hein. Il y a différents liens existent partout en France pour accompagner les proches aidants, les personnes âgées ou en perte d'autonomie. Alors là, c'est pour ce qui concerne les proches aidants et les aidants familiaux. Alors, j'espère avoir répondu à la question de la personne qui a posé cette question jeudi dernier. Là, c'est un sujet qui concerne beaucoup de gens, là, hein, le licenciement des fonctionnaires pour insuffisance professionnelle. Alors là, à l'occasion du lancement du 9 avril 2024 des discussions sur la nouvelle réforme à venir de la fonction publique, Stanislas Guérini se met d'emblée à dos des organisations syndicales en annonçant vouloir lever le tabou du licenciement dans la fonction publique. Alors, intégrer une négociation salariale annuelle, rémunérée au mérite, entrer et sortir plus facilement de la fonction publique, réorganiser le système catégorie ABC, uniformiser les modes de recrutement et professionnaliser les concours constituent pourtant les grands axes de discussion du projet de réforme de la fonction publique. Vous savez bien, c'est un projet de réforme. Et Conseil des maillages est toujours là, il y a les projets, et lorsque la loi est publiée, ben Conseil des maillages vous donne les détails clairs. Mais c'était sans compter sur l'annonce de dernière minute du ministre concernant son souhait de lever le tabou du licenciement des fonctionnaires. Et pour illustrer ses propos, eh ben, Stanislas Guérini relève que seuls 13 licenciements pour insuffisance professionnelle, 11 hommes et 2 femmes, ont été prononcés en 2022 dans la fonction publique d'État. Selon lui, il faudrait avoir plus de recours dans la fonction publique à ce type de procédure. Donc là, il a bien précisé de la fonction publique d'État, tout en sachant que dans toutes les fonctions publiques, il existe la possibilité de licencier pour insuffisance professionnelle ou autre, hein. Parce que ben, y a des commissions pour ça d'ailleurs, hein, y a des conseils de discipline hein, qui peuvent où le fonctionnaire peut passer, et puis ils ont des syndicats pour défendre, etc. Ça existe déjà, hein, et pour les contractuels, il y a la possibilité également de licencier. Bien sûr, les licenciés, c'est déjà possible, mais peu fréquent. Hein, c'est ce que, par exemple, l'avertissement, le blâme, l'excuse intemporelle, la révocation, que ce soit l'État, les hôpitaux ou les collectivités disposent de nombreux outils pour sanctionner ou se séparer de leurs agents. Donc, il n'y a pas péril en la demeure. Par contre, pour ce qui concerne les emplois de directeurs généraux et directeurs de cabinet, les directeurs généraux de la fonction publique, ce sont des emplois de direction générale. Eh bien, ce sont des emplois fonctionnels. On appelle ça des emplois fonctionnels, les emplois de direction. Alors, il y a deux façons d'être embauché en tant que directeur général d'une collectivité, que ce soit département, commune, région, etc. Hein, ce sont des emplois de direction. On peut être embauché sur cet emploi si on est déjà fonctionnaire, que ce soit dans la même collectivité ou ailleurs. On est en détachement à ce moment-là. Ou alors, on vous recrute directement avec vos diplômes. Et il y a des gens qui ne comprennent pas que tout d'un coup, on a quelqu'un qui rentre, il gagne un gros salaire. Ben oui, ben il a été recruté directement sur diplôme, c'est Bac++, hein, pour la direction générale, et ou alors par détachement, à condition d'être en catégorie A, bien sûr, il y a des conditions pour être détaché, vous gardez votre grade et vous êtes détaché dans l'emploi fonctionnel, ça s'appelle, hein, et ça s'appelle les emplois fonctionnels de direction. Les emplois de direction générale incarnent la permanence de l'action publique. Le directeur général des services dirige l'ensemble des services et en coordonne l'organisation sous l'autorité du maire ou du président. C'est le maire et le président qui commandent toujours. Et là, ce sont les emplois de direction générale administrative. Il est secondé, le cas échéant, par un ou plusieurs directeurs généraux de services, c'est-à-dire selon la strate démographique, c'est-à-dire le nombre de personnels de la collectivité. Là, eh bien, il y aura un directeur général ou des directeurs généraux adjoints qui l'aident le directeur général. Et là, ce directeur général de service, il s'occupe de tout ce qui est administratif. Il existe aussi l'emploi fonctionnel de directeur des services techniques qui est placé sous l'autorité du directeur général des services et ou du directeur adjoint de service, c'est-à-dire que le directeur général des services technique, il est sous l'autorité de la Direction générale des services. Eh bien, il dirige l'ensemble des services techniques dont il coordonne l'organisation. Les emplois fonctionnels administratifs et techniques sont des emplois permanents créés par délibération de la collectivité territoriale et une déclaration de vacances d'emploi, etc. Je ne vais pas vous donner les détails. Par contre, là, pour ce qui concerne l'administration, là, le directeur général, lui, il est garant du maire dans le service administratif. À côté de ça, il existe des collaborateurs de cabinet. Les collaborateurs de cabinet, si l'autorité le veut, il peut former son cabinet librement, recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions. Là, on parle de collaborateurs de cabinet, ça n'a rien à voir avec les directeurs généraux de service. Et bien sûr, comme il y a plusieurs collaborateurs de cabinet, nous allons trouver aussi des directeurs de cabinet, parce que dans un cabinet, il n'y a pas 3, 4, 5, 6 collaborateurs, selon la strate démographique, c'est toujours pareil, hein, selon la strate démographique, donc, c'est-à-dire le nombre de gens qui habitent dans la collectivité, eh bien, il y a des collaborateurs cabinet. Eh bien, avec les collaborateurs cabinet, comme il y en a plusieurs, il y a un directeur, donc, mais il est au titre de même collaborateur. Alors, l'autorité territoriale peut librement recruter et peut licencier aussi. Eh bien, les membres du cabinet sont directement rattachés à l'autorité territoriale, c'est-à-dire il est rattaché au maire ou bien au président. Il n'a pas de compte à rendre à l'administration dans le domaine administratif. Il l'assiste dans sa double responsabilité politique, il assiste, responsabilité politique et administrative. Donc, on ne peut pas demander à un collaborateur de cabinet de donner les preuves de son travail. Puisqu'il travaille avec le maire, il peut aller voir sur le terrain, au niveau politique, qu'est-ce qui se passe, etc. D'accord ? Les collaborateurs de cabinet ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés et qui décide des conditions et des modalités d'exécution du service qu'ils accomplissent auprès d'elle. C'est-à-dire que le collaborateur de cabinet n'a point de compte à rendre à personne dans la collectivité. Il rend compte au président ou au maire parce qu'il est politique. Le cabinet a traditionnellement une mission de conseil auprès de l'autorité territoriale. Par exemple, un collaborateur de cabinet dit conseille le maire. Est-ce qu'on peut trouver la preuve qu'il travaille pour son maire ? Non. Le collaborateur de cabinet de conseil auprès de l'autorité territoriale, de préparation de ses décisions, de liaison entre l'autorité territoriale et l'administration. Il fait la liaison. Si par exemple le directeur général fait quelque chose et puis il veut passer, etc., il fait la liaison avec le maire, le président, etc. Enfin bon. À titre indicatif, un cabinet peut comporter, sous réserve du nombre de collaborateurs autorisés, un directeur de cabinet, un chef de cabinet, un chef ou secrétariat particulier du maire ou du président, un ou plusieurs conseillers techniques chargés de mission ou un plusieurs attachés de presse. Alors tout ça, c'est pour vous dire qu'au niveau des collaborateurs de cabinet et directeurs de cabinet et directeur général des services, etc., pour ce qui concerne le licenciement, eh bien, c'est différent. Bien sûr, après, il y a des conditions de licenciement, des primes, etc., des allocations chômage, enfin bref, ça n'a rien à voir. Les collaborateurs de cabinet et les emplois de direction, des emplois fonctionnels de direction administrative, ça n'a rien à voir. Et on ne peut pas contrôler, on va dire, le travail, du directeur de cabinet, pareil que le directeur général des services. Le directeur général des services, il est responsable de l'administration. Et le collaborateur de cabinet de la politique. Voilà pour ce qui est de cette émission aujourd'hui. Moi, quand on me parle de la fonction publique, c'est mon dada. Je suis une férue, j'aime bien, c'est mon domaine. Hein. La fonction publique territoriale, État hospitalier, donc voilà. Bon, voilà, notre émission se termine. Merci pour votre attention, merci pour votre fidélité. On se retrouve jeudi prochain. Merci Didier, merci à toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel. Notre train arrive à la gare et on va se quitter avec regret, mais à bientôt. Au revoir. Au revoir Didier.